Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le foot normand.
Chers amis, le débrief de retour, deuxième partie de ce 17e épisode, le débrief de Radio VFM et Foot Normand qui, cette semaine, vous le savez, fait la part belle au foot féminin. À mes côtés, l'indétrônable Mathieu Billot de Foot Normand. Bonjour Mathieu.
Salut Christophe, salut à tous.
Cette deuxième partie spéciale foot féminin au Stade Malherbe, elle commence maintenant. On continue donc de parler effectivement foot féminin, mais cette fois-ci de l'autre côté du pont de Normandie avec le Stade Malherbe. Et pour ça, eh bien, on accueille Anaïs Bounoir, la responsable technique de la section féminine des Rouges et Bleus. Bonjour Anaïs.
Bonjour à tous.
Alors Anaïs, comme pour votre consoeur du HAC, Laure Le Pailleur, eh bien, on va vous demander déjà peut-être de présenter cette section féminine du Stade Malherbe, section encore plus récente que celle du Havre. Elle existe depuis 2019. Comment peut-on la présenter aujourd'hui en termes de licenciés, de nombre d'équipes par exemple?
Eh bien écoutez, donc, comme vous l'avez dit, création en 2019 de cette section féminine, lors notamment de l'année de la Coupe du Monde, donc plutôt un bon point par rapport à ça. Et puis maintenant, donc, elle est constituée de 5 équipes, U11, U13, U16, U18 et l'équipe Fagnon qui est l'équipe senior qui évolue en R1. On accueille 86 joueuses exactement, avec une dizaine de dirigeants, donc on va être bientôt à une centaine de personnes pour dans cette section féminine.
Est-ce que, Anaïs, la crise sanitaire, elle n'a pas trop freiné le développement de cette section féminine? On rappelle évidemment que, comme pour l'ensemble du foot amateur, les compétitions pour les féminines du Stade Malherbe avaient été largement tronquées ces deux dernières saisons.
Oui, exactement. On n'a pas pu, nous, en tout cas, évoluer et continuer de jouer, notamment les matchs, et surtout sur cette équipe première. Alors, on s'est servi de ce temps-là pour continuer de structurer et réfléchir à une stratégie pour évoluer le plus rapidement possible sur du niveau élite, du niveau national. Donc on s'est servi de ce temps-là, mais effectivement, si on parle sur l'aspect sportif, nous avons été, comme tous les clubs amateurs, je pense, privés de jouer, donc d'une évolution.
On peut imaginer que peut-être, effectivement, avec deux saisons qui seraient disputées normalement, l'équipe première aurait au moins eu sa chance d'accéder en D2. On ne sait pas si elle y serait, mais elle aurait eu au moins la chance de tenter sa chance. Et idem pour les U18 féminines, qui, elles, à coup sûr, évoluera au niveau national au moment où on se parle, s'il n'y avait pas eu ces deux saisons totalement tronquées.
Alors, il faut faire preuve d'humilité malgré tout. Mais effectivement, notamment notre équipe U18, qui aujourd'hui a dominé depuis 3 ans le championnat régional avec de scores très très larges. Donc, il y a quand même un barrage d'accession pour accéder au niveau national, mais qui est moins difficile que notamment de la R1 à la D2. Donc, on aurait pu penser, en tout cas, que sur ces 2 ans-là, on aurait pu accéder à ce niveau U19 national. Donc forcément un frein par rapport à nous et à la poursuite de cette formation et notamment dans leur évolution. Et puis sur l'équipe R1, oui, peut-être qu'on aurait pu justement accéder à ces playoffs qui nous auraient donné la possibilité de. Maintenant, on n'en saura jamais. Nous, on est en cours cette saison pour y accéder et on fait ce qu'il faut pour avoir l'occasion de pouvoir jouer ces playoffs.
Justement, c'est l'objectif là cette saison de disputer les playoffs. On rappelle juste que dans le championnat donc du coup de R1 féminine, un petit peu nouvelle formule cette saison avec 14 équipes, les deux premiers disputeront les playoffs contre les autres premiers des autres poules de R1 régionales qui sont dans toute la France.
Voilà, exactement. Donc écoutez, pour l'instant on est à 13 matchs, 13 victoires, première du championnat et ce week-end on a eu la chance aussi de passer meilleure attaque et meilleure défense. Donc on commence à monter en puissance, en tout cas nous, sur les contenus et sur nos envies. Et puis notre ambition est en train de grandir. Donc on a forcément l'envie d'aller aux play-offs et de se préparer au mieux pour y accéder.
On précise juste du coup que les play-offs se dérouleront au mois de juin. Et donc il y a 2 tours pour accéder en D2. Donc c'est quand même un petit parcours du combattant quand même pour accéder.
Exactement. Pour nous, c'est un vrai parcours du combattant. La saison se joue en 2 parties. Déjà finir première de son groupe, ça c'est quand même l'objectif principal. Et puis une fois qu'on finit première, c'est aléatoire parce qu'en plus le tirage est national. Donc on ne sait pas contre qui on va jouer. Les équipes, on ne les connaîtra pas. Donc c'est assez difficile. Un deuxième championnat va commencer au mois de juin si on a la chance d'y aller.
Et est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est entendable aujourd'hui de prétendre à dire que le Stade Malherbe peut avoir une équipe en deuxième division féminine. On sait que le cap est très important par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui.
Exactement, exactement. C'est la réalité. Entre une équipe de R1 et une équipe de D2, aujourd'hui, il y a une énorme différence. Et souvent, on a l'envie de comparer aux garçons. Et moi, je compare tout le temps ça à des clubs de Ligue de garçons qui veulent aussi et monter en Ligue 1 et qui veulent tout de suite jouer la Coupe d'Europe. Donc, ce serait impossible. Et là, nous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que de jouer en R1 et passer en D2, il faut multiplier par 4 ou 5 parfois son budget pour pouvoir vraiment exister en D2 national. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais nous, le Stade Malherbe, aujourd'hui, on a cette envie, les dirigeants ont cette envie. Donc on travaille depuis maintenant presque un an et demi pour si accession il y a, on sera prêt à pouvoir réagir et surtout bien figurer dans cette division.
Quand vous dites que vous commencez justement à préparer la suite, Anaïs, est-ce que, par exemple, le recrutement de joueuses comme Marion Omedané, qui, on le rappelle, a joué au HAC, a joué à la GECAN, ça fait partie justement de cette idée de se projeter sur une éventuelle accession?
Exactement, la recrue, comme tu viens de le dire, Margot, c'est exactement ce profil-là que l'on souhaite. Moi, aujourd'hui, je travaille pour le recrutement de la saison prochaine, c'est vrai. C'est aussi mon rôle de préparer cette saison prochaine, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire que nous sommes en R1 ou nous sommes en D2. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons, en 2024, être en D2. Donc, je dois mettre cette équipe-là en D2. Et on sait qu'il faut un recrutement avec des joueuses un petit peu plus expérimentées, parce qu'aujourd'hui, on a une équipe qui a 21 ans de moyenne d'âge. Donc, il faut aller chercher des potentiels, mais surtout des joueuses un petit peu plus matures. Donc Margot fait partie intégralement du recrutement de cette saison, forcément, parce qu'elle va nous aider sur cette fin de saison et peut-être justement sur les playoffs et sur les saisons prochaines, on l'espère. Donc effectivement, ça fait partie intégralement de ce recrutement-là, mais il n'y a pas uniquement le recrutement, il y a aussi toute la structuration qu'il y a autour du club et puis l'aspect économique, hein, qu'il faut parler, forcément. C'est pas la même chose de se déplacer dans la région et de se déplacer dans toute la France. Et en termes aussi d'organisation chez nos jeunes, chez notre formation, à notre école de foot, notre promotion, notre image. Voilà, on a beaucoup, beaucoup de volets à développer aussi à côté. Et on essaye en tout cas de s'y atteler depuis un an et demi.
On en parle souvent, donc, de ce fameux écart qui peut exister entre un championnat de R1 féminin et un championnat de deuxième division. Il y a un serpent de mer qui revient souvent dans le football français au niveau des féminines. C'est une éventuelle création d'une troisième division qui existait avant. Hein. D'ailleurs, Anaïs, vous y avez évolué dans ce championnat-là, si je me trompe pas, quand vous étiez joueuse.
Moi, j'ai pas évolué, mais il existait. J'ai directement été en D2, mais il existait au moment où moi je jouais, effectivement.
Ouais. Donc, on pourrait considérer de l'extérieur qu'un championnat de troisième division pourrait constituer une étape un peu intermédiaire, justement, pour essayer de réduire cet écart-là. Quel est votre avis sur ce sujet-là? Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que vous êtes défavorable?
Ouais. Oui, bien sûr, je suis favorable. Je suis favorable à cette troisième division pour plusieurs raisons. La première, c'est ce qu'on évoquait sur l'aspect économique. Aujourd'hui, le fait d'avoir une troisième division, peut-être même avec deux groupes, nous permettrait déjà d'avoir on va dire, un nord-sud ou quelque chose qui nous permettrait de ne pas nous traverser toute la France. Bon, après, ça sera la fédération qui le décidera. Puis après, sur l'aspect sportif, ça permettrait aussi à des jeunes joueuses de pouvoir évoluer. C'est-à-dire que demain, comment nous, on va évoluer avec nos jeunes joueuses si nous montons en D2. Nos jeunes joueuses qui sont U18 notamment, on souhaite les garder au club, mais elles ne pourront pas et elles n'auront pas pour l'instant les capacités à jouer en équipe D2, ce qui est normal au vu de l'écart. Donc ça nous permettrait, nous, d'avoir une étape supplémentaire pour continuer de former nos joueuses, parce qu'on veut garder cette identité-là. Et puis aussi, ça permettrait à des clubs qui sont beaucoup plus épais, comme l'Olympique Lyonnais, le PSG, etc., d'avoir une équipe B et aussi leurs jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier, ils ont aussi des jeunes, ils travaillent beaucoup avec leurs jeunes, dans cette division-là. Donc nous, équipe première de R1, nous montons dans cette équipe, dans cette division-là. Donc nous jouons contre des jeunes potentiels, donc des U20, 21, 22, 23, de l'Olympique Lyonnais, du PSG, enfin voilà, de grands clubs de D1. Et puis nous, ça nous permettrait d'avoir une étape supplémentaire dans notre formation et dans notre développement sur l'aspect sportif, mais aussi sur l'aspect structuration. Donc cette troisième division, moi je suis complètement favorable à avoir une étape de plus pour accéder à l'élite.
C'est le parallèle, finalement, Mathieu, avec les garçons. On avait, il y a quelques semaines de ça, Gilbert Guérin qui lui se battait pour la création d'une troisième ligue professionnelle. Bon, à chacun ses combats, mais ça rejoint effectivement un petit peu les enjeux du foot masculin. Anaïs, la formation, c'est donc attirer les meilleures joueuses du bassin canet, de l'ex-basse Normandie. C'est ça le projet aujourd'hui ?
Oui, exactement. Alors nous, moi, depuis que je suis arrivée au club avec le président, notamment Fabrice Clément, on avait mis en place ce projet. Il était important pour moi, quand j'ai pris cette section, de consolider, d'avoir des fondations, et les fondations, ce sont les jeunes. Donc on a pris tout de suite l'initiative de se dire qu'il y avait des potentiels, qu'il fallait que ces jeunes joueuses à potentiel viennent jouer au Stade Malherbe, qu'elles aient envie et surtout qu'elles puissent durer et ne pas s'expatrier ailleurs qu'au Stade Malherbe. Donc on fait un gros travail depuis 3 ans maintenant sur ces jeunes joueuses, et la formation est très importante pour nous. Et aujourd'hui, je joue avec 8 joueuses qui ont été formées au club. Voilà, ça fait 3 ans qu'elles étaient chez les jeunes. Aujourd'hui, elles sont avec moi. Il y en a 8 qui font partie du groupe senior. Donc, ce ne sont pas que des mots. On fait aussi ça par les actes. Moi, je participe aussi à de nombreuses séances chez les jeunes. C'est important pour nous. Maintenant, il faut réussir à aller les chercher. Et vous parlez de l'ex-basse Normandie. Mais on est en train de s'ouvrir. On voit aussi qu'il y a des joueuses de la Haute-Normandie, ex-Haute-Normandie, qui viennent aussi à nous. Donc on est ravis, mais sur la Normandie, maintenant, on a beaucoup de concurrence avec des clubs qui sont très, on va dire comme nous, très agressifs sur l'aspect formation et le recrutement.
Et à l'instar des garçons, Anaïs, est-ce qu'il faut créer des passerelles avec les autres clubs de la région ? Est-ce qu'il faut qu'évidemment ce projet puisse reposer sur une bonne compréhension des autres clubs régionaux qui doivent adhérer à votre projet ?
Bien sûr. Cependant, en toute honnêteté, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a très peu de clubs aujourd'hui qui sont ouverts à des discussions pour des partenariats, notamment avec le Stade Malherbe, mais je parle juste sur l'aspect féminin, uniquement. Tous les clubs qui sont aux alentours, au début, nous ont pas forcément bien accueillis sur la scène et notamment sur l'aspect féminin. Ce que je peux entendre et comprendre, donc nous, on leur a bien formulé notre projet qui n'était pas de prendre toutes les joueuses, mais les meilleurs potentiels pour leur permettre d'atteindre l'élite. Donc c'est pas du tout le même projet que les clubs qui sont aux alentours. Donc difficulté pour moi et pour nous, Stade Malherbe, d'échanger avec beaucoup de structures. Parce que dès que nous sollicitons une joueuse, ils souhaitent la garder chez eux. Ce que je veux bien entendre, parce que j'ai aussi fait partie des clubs amateurs, mais j'ai été aussi à leur place et j'étais très heureuse et ravie de voir une ou un très bon joueur partir dans une section, et notamment un club professionnel, et évoluer notamment sous d'autres couleurs, mais avec d'autres objectifs forcément. Donc difficulté aujourd'hui, mais c'est une envie du club de maintenir des liens et de créer des liens forts, notamment sur la région. Mais grande difficulté aujourd'hui à faire comprendre et accepter notre projet.
On peut imaginer justement que dans cette logique-là, si demain la section féminine du Stade Malherbe accédait en D2, ça serait peut-être plus facilement compris par les autres clubs régionaux qui, là, peut-être voient plus un concurrent, parce que vous évoluez même toujours peut-être dans les divisions régionales, même si vous êtes quand même déjà sur un peu une autre planète. Mais le simple fait d'accéder à un niveau national, le message peut-être serait plus clair vis-à-vis de vos interlocuteurs régionaux.
Oui, exactement, peut-être. Peut-être, cependant, moi, je pense au moyen et long terme. Quand je pense joueuse, et aujourd'hui, nous, on a l'inverse, et je le prends souvent, c'est qu'on a des jeunes joueuses internationales qui sont demandées par des clubs de D1 et voire de D2. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de pouvoir donner ce qu'ils leur donnent. Donc, nous disons à cette joueuse, pars pour ton bien, si tu le souhaites, si c'est ton envie. Bien sûr qu'on a envie de te garder, mais si c'est pour ton bien et ta formation, alors pars. Mais aujourd'hui, ce qui est dommage, effectivement, c'est de se dire, bon, comme le Stade Malherbe est en R1, alors nous, c'est pas vrai. Les clubs aux alentours, nous, aujourd'hui, on a la possibilité de donner pas mal de choses aux joueuses, notamment des horaires aménagés, un suivi scolaire à la formation, un internat, vraiment un complément. On joue contre des équipes dans toute la France. Là, on fait des tournois nationaux, etc. Donc on a accès à beaucoup de choses qui leur permettent d'évoluer. Sur l'aspect senior, on est en train de travailler justement pour que les joueuses, bien sûr, essaient d'avoir des emplois du temps qui leur permettent d'être performantes au niveau national et de s'entraîner. Cette année, on s'entraîne 4 fois, mais l'année prochaine, on essaiera de s'entraîner entre 5 et 6 fois. donc d'avoir un projet de vie aussi qui soit compatible. Donc on travaille avec beaucoup d'entreprises maintenant et on essaie de mettre en place beaucoup de choses. Donc forcément que les clubs aux alentours doivent comprendre que même si nous sommes en R1, nous voulons aller dans l'élite française. Donc devenir une référence en Normandie. Donc, mais malgré tout, sans prétention et avec beaucoup d'humilité, les joueuses viennent sans que les clubs nous les envoient. Malgré tout, elles viennent chez nous parce qu'à un moment, bah, la finalité, c'est d'aller dans une structure et penser à surtout sur du moyen et du long terme.
Et puis il y a l'aura forcément du Stade Malherbe hein, qui fonctionne aussi. Hein, le pouvoir d'attraction fonctionne pour les petits garçons comme pour les petites filles. Et il est exactement identique de ce point de vue-là. On va profiter de votre présence quand même pour dire un petit mot par rapport à l'équipe de France féminine de Corinne Diacre qui se produit en Normandie actuellement dans le cadre du tournoi de France. Elle était samedi au stade de Michel Dornano contre le Brésil avec une victoire 2-1 à la clé dans une bonne ambiance, hein, 12 000 spectateurs, ce qui est vraiment exceptionnel. Vous y étiez personnellement avec votre équipe, hein, je crois que c'était l'occasion aussi de présenter un petit peu le projet auprès de certaines personnalités. L'équipe de France, elle a un rôle aussi à jouer peut-être dans ce développement-là en termes d'attraction pour le football féminin.
Exactement. Bah, c'est la vitrine, hein. c'est ce qui se fait de mieux au niveau national. Donc l'équipe de France représente et on avait la chance nous d'y être ce week-end. Samedi, on avait amené toute notre école de foot, toute notre formation, nos joueuses seniors. On avait réuni aussi tous nos partenaires qui nous suivent depuis maintenant presque 3 ans. Donc c'était une vraie soirée foot féminin, sport féminin, j'ai envie de dire, même parce qu'il y avait d'autres sports qui étaient réunis. On avait vraiment cette envie de promouvoir le football, mais aussi le sport féminin. Et en plus, on a vécu dans une atmosphère et d'une ambiance, 12 000 spectateurs. Ça faisait longtemps aussi à Dornano qu'on n'avait pas eu autant de personnes et une aussi belle ambiance. Donc on était ravis. Sur le terrain, une victoire de l'équipe de France. Une équipe de France rajeunie aussi, avec une très belle image, avec de très belles joueuses de foot, j'ai envie de dire même des athlètes sur le terrain, une intensité, un rythme, on ne s'est pas du tout ennuyé, donc il y avait aussi autour de moi des personnes qui étaient assez impressionnées en fait du rythme et des joueuses de l'équipe de France, une belle image des joueuses avec un état d'esprit irréprochable, exemplaire. Même avec nos jeunes joueuses qui étaient porte-bâches, elles ont pu aussi échanger avec elles. Donc l'équipe de France aujourd'hui démontre, et sur le terrain et en dehors aussi, ce qu'est le sport féminin et le foot féminin. Donc félicitations à l'équipe de France et puis à Corinne Diacre aussi de véhiculer toute cette belle image pour la suite. Je pense que ça peut être de bon augure pour notre Euro et je pense qu'il y aura un beau résultat.
Corinne Diacre, que vous connaissez, je crois, si je me trompe pas, hein, vous l'avez déjà croisé dans votre parcours.
Exactement, ça a été mon entraîneur pendant une saison à la SJ Soyeux.
Voilà, tout à fait. On va en profiter aussi pour, on va pas oublier quand même.
On a même fait la Ola, Mathieu, dans les tribunes de Dornano samedi soir. Ça nous était pas arrivé depuis un bon moment. Hein.
Non. Après, on peut dire que, enfin, pour côtoyer d'autres stades de Ligue 2, on peut dire qu'en moyenne, le Stade Malherbe se trouve dans le haut du panier.
Oui, la Ola, ça arrive rarement en Ligue 2.
Ça arrive rarement. La bonne ambiance au stade, je pense que à ce niveau-là, Malherbe, on n'a pas à se plaindre.
Il y a la ministre des Sports, Roxana Massineanu, qui était là aussi.
Elle a fait la Ola aussi, la ministre.
Elle était pas loin de nous. Voilà, c'est quand même une effervescence aujourd'hui qu'on a autour du foot féminin qui n'existait pas, Anaïs le disait, il y a encore quelques années.
Ouais, moi je pense aussi qu'à Caen et dans ce territoire-là, c'est aussi une terre de football. Je pense qu'on le voit deux fois par mois avec l'équipe masculine, hein, qui pourtant les supporters ne sont pas spécialement gâtés au niveau des résultats, mais ils sont toujours là. Et comme de par hasard, là il y a un match de haut niveau féminin avec l'équipe de France de très haut niveau. Et là vous avez 12 000 spectateurs, ça répond aussi. Donc voilà, moi je pense aussi que Caen, son bassin et son territoire sont aussi une terre de football. Et quel que soit le football pratiqué, garçon, féminin, haut niveau et peut-être moindre. À une époque, hein, il y avait les finales de la Coupe de Basse Normandie, si je ne me trompe pas, qui étaient enlevées des rideaux d'un match professionnel. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment sur une terre au niveau camp, une terre de football et ça répond à chaque fois.
Eh ben, c'est parfait.
Tout à fait d'accord.
Voilà. Et je pense qu'Anaïs, voilà, ne fait que valider ses propos. Eh bien, grand merci à Anaïs d'avoir été l'invité du débrief. Oui, juste avant qu'on se quitte, Mathieu, un mot sur les garçons, effectivement, parce qu'on ne peut pas se quitter sans parler aussi des garçons qui ont été à l'honneur, notamment les plus jeunes ce week-end.
Voilà, on va dire juste deux petits mots pour dire que l'équipe première, malheureusement, s'est inclinée 1-0 sur le terrain de Pau, et donc du coup se retrouve 14e au classement, toujours avec 29 points, et avec 4 points d'avance sur le barragiste grenoblois. Il y a eu un petit statu quo derrière, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gagné, hormis la Lanterne Rouge de Nancy, ce week-end.
Et la réception de Bastia, ce sera samedi prochain à Dornano.
Voilà, un gros match, c'est une belle équipe bastiaise qu'on a eu l'occasion de voir il n'y a pas si longtemps s'imposer au stade Océane au Havre. Et bon, un petit mot quand même pour féliciter l'équipe de Gambardella, qui s'est qualifiée pour les quarts de finale de cette compétition, avec une victoire 3-0 à Brest. Donc loin d'être évident, 4e match à l'extérieur dans cette compétition, 4 tours, 4 matchs à l'extérieur, et donc ils sont en quart de finale, et c'est une première depuis 2016, donc pour dire que ça n'arrive pas non plus tous les ans un quart de finale de Gambardella, et donc ça valorise aussi, moi, je pense, tout le club, tout le travail de la formation qui y est fait, et voilà, ça, je pense que ça fait bien aussi à tout ce club d'avoir un petit peu de bonheur aussi à ses supporters, c'est important.
Avec un doublé de Norman Bassett qui avait marqué la veille le but de la victoire de l'équipe réserve en National 2, vous nous avez fait suivre, Mathieu, à travers les réseaux sociaux de Foot Normand, au plus près, hein, de l'intérieur, en inside, comme on dit, cette épopée des jeunes canets tout le week-end à Brest, et ça s'est fini en apothéose. On a même une vidéo magnifique, on vous voit danser la chenille dans le bus au retour, c'est fantastique.
Non, alors moi je danse pas la chenille, mais c'est vrai que les jeunes joueurs, ouais, c'est marrant aussi de partager. Je me doutais pas que des jeunes joueurs pouvaient écouter des standards des années 80, comme quoi c'est vraiment intergénérationnel. Donc voilà, effectivement, le Stade Malherbe, par l'entremise de son directeur du centre de formation et entraîneur des 18, Nicolas Sub, voilà, m'avait permis de faire ça. Donc voilà, donc c'était une expérience, je pense, assez enrichissante, que ce soit pour moi, mais surtout pour ceux qui ont pu suivre ça à travers les réseaux sociaux. Et donc le tirage au sort aura lieu mercredi pour connaître l'adversaire en quart de finale.
Et on comprend mieux pourquoi vous êtes venu ce matin avec votre boîte déferlant.
C'est ça.
Eh bien, merci en tout cas, Anaïs, vraiment, d'avoir été l'invité du débrief de Radio BFM et Foot Normand ce lundi pour parler de foot féminin. On espère se retrouver évidemment très bientôt, parce qu'on l'a bien compris, le projet foot féminin au Stade Malherbe, il est loin d'être fini. Merci beaucoup, Anaïs.
Merci beaucoup, merci à vous.
Et à très bientôt. Eh bien, c'était la deuxième partie du débrief. Mathieu, un petit effet ralgant, on enchaîne par la troisième partie.
C'est parti.
Et on parlera encore foot féminin, mais avec la Ligue de football de Normandie cette fois-ci. Et sa conseillère technique régionale en charge du football féminin, justement, Mylène Panier.
Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand.